Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Alors, deux petites infos liées sur le cinéma et le...
Et la littérature.
Et la littérature.
Alors... Et le théâtre, puisque bientôt va avoir lieu la cérémonie des Césars, des Molières et aussi, surtout les Molières pour la France, et puis les David Donatello in Italia, et sont justement nommés pour l'Italie. Le film de Paola Cortellesi, dont on a parlé ici, hein, C'è ancora domani, elle-même est nommée comme meilleure regista, Valerio Mastandrea nommé parmi les cinq meilleurs acteurs, et Romana Maggiora Vergano, la jeune actrice qui joue sa fille, comme esordiente et révélation du cinéma. Quant aux Molières, on a reçu ici Huguette Atem, qui, il y a quelque temps, à la fin de l'année, qui avait traduit la pièce inspirée de La journée particulière. Et là, à la fois Laetitia Casta et Roche Dizem sont également nommés pour les Molières. Voilà, on espère qu'ils les auront. En ce qui concerne la littérature, on avait reçu en mars Marité Capuano et Sophie Floreani, qui nous ont parlé de la Ciocia et de Naples. Il y a quelque temps, on a reçu Riccardo Guerrieri, le Calabre. Et ici, j'ai deux ouvrages de Concetta Condemi, qui a écrit deux recueils de nouvelles sur son pays d'origine, la Calabre. Voilà, des histoires racontées par sa mère et sa grand-mère en dialecte calabré, et qu'on pourra, j'espère, retrouver bientôt. Alors, Concetta, moi, ça me rappelle la Concetta, la fille du Catopardo, qui était amoureuse. Son cousin Tancredi, que le cousin va se marier avec la belle Claudia Cardinale. Et Claudia Cardinale, dont c'est demain l'anniversaire. Et donc, ces nouvelles sont très, très intéressantes. Ce sont d'après des histoires vraies, mais tout ça dans un très beau style direct, où on retrouve toutes... les problèmes de la Calabre du XXe siècle. Et enfin, on avait reçu ici, il y a quelque temps, trois jeunes acteurs pour une pièce qui s'appelle Pirandello Suite, qui sont l'adaptation de trois nouvelles de Pirandello. Et ils reprennent ce spectacle. Ce sera du 30 mai au 9 juin. On aura peut-être le temps d'en reparler. Et puis, je rappelle que le 10, c'est-à-dire cette semaine a commencé la rétrospective Michelangelo Antonioni à la Cinémathèque. Et aujourd'hui, on peut voir trois films, Blow Up, Professione Reporter et Identificazione di una Donna. Et je rappelle aussi que la Cinémathèque nous offre à nos auditeurs un mot de passe pour avoir des tarifs réduits à 4 euros seulement. Le mot de passe, c'est M.A. Cappuccino, M.A. pour Michelangelo Antonioni. Voilà. Vous vous présentez aux caisses en donnant le mot de passe et vous ne payez que 4 euros. Voilà. Et c'est jusqu'au 26 avril.
Merci Alain. Allez, tiens, il est 9h30, dis donc. Super. Oui.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato, ma no, e va bene, lo so. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle 6 di mattina.
Ma tu non piangere.
Aligre FM presenta Cappuccino. Il presentatore del 9.30 è Michele Gotti con i suoi invitati.
Michelin!
Sì, sono
bonjour.
Io!
Bonjour!
Bonjour à tous! Ben écoute, on est content parce que là, il y a un beau plateau. On dirait presque une belle table pour manger.
Il manque plus que les assiettes.
Il manque plus que les assiettes et tout. On y est presque. Donc voilà, on vous dira pas qui est l'invité pour l'instant. Non, on veut faire une petite surprise. Hein, voilà. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. Le soleil, il est où?
Ah bah je sais pas, il est pas là toujours.
Mais où le soleil? Il est où? Vous souhaite plein de bonnes choses encore une fois. Le téléphone, le 01 40 24 29 29 93. C'est la fréquence et la radio s'appelle Aligre FM, l'émission Cappuccino. Alors, juste deux, trois petites annonces avant de passer à notre invité. Donc on vous rappelle que le numéro 132 de La Voix est paru. Hein, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc il y a des articles sur Pessaro, capitale de la culture. Et puis, on a un grand dossier sur Piacciano, tourné. J'ai mal écrit. Bravo, Michel. Donc, enfin, en tous les cas, le numéro 132, il est super. Il faut vous abonner. On vous rappelle ça tous les deux mois. Et le téléphone pour s'abonner, c'est le 06 09 78. 55 05. Il y a des très très beaux articles, notamment de Walter Tenaglia sur Manouchian, et qui a été enterré au Panthéon. Donc il y a vraiment des choses intéressantes. Et puis également, l'association Les Calabrais organise un concert le 20 avril au Clan Destino, 18 rue des Envierges, dans le 20e arrondissement, à 20h30, avec l'orchestre jazz Testa Quintet, dirigé par Antonio Testa. Pour plus d'informations, vous téléphonez au 06 60 84 77 34. Quoi d'autre encore? Ah ben, vous pouvez toujours aller voir l'émouvant spectacle Gesolmine, interprété par Lina Caracosta, à la Folie Théâtre. C'est tous les dimanches, donc c'est aujourd'hui à 19h, et c'est tiré du film La Strada. Pour plus d'informations, vous téléphonez au 01 43 55 14 80. Alors, pour vous mettre l'eau à la bouche, vous allez voir, essayez de réfléchir un petit peu pourquoi on met cette chanson-là. Et pour essayer de comprendre qui sera notre invité, rien de mieux que notre ami Renzo Arbore avec A Noi Ci Piace Mania. Tiens, tiens, une indication pour notre invité de ce matin.
Alla parese, tortellini alla bolognese.
A noi ci piace magna.
Salti in bocca alla romana, melanzane alla parmigiana.
A noi ci piace magna.
Cotoletta alla milanese e porchetto alla nuorese.
A noi ci piace magna.
Con il fegato alla veneziana, i cannoli alla siciliana.
A noi ci piace magna.
Se le anguille son di Comacchio, dall'Abruzzo viene l'abbacchio.
A noi ci piace magna.
La polenta alla valsugana, con le olive alla scolana.
A noi ci piace magna.
Con il pesto alla genovese, l'insalata sarà caprese.
A noi ci piace magna.
E coi coccoli alla foggiana, e friari e la napulità.
A noi ci piace magna. A noi ci piace.
A noi ci piace.
A noi ci piace.
A noi ci piace.
A noi ci piace. A noi ci piace.
We'll be right back.
alle fiorentina, baccalà e alla vicentina.
Annuccio piace bagna.
Bucatini alla matriciana, medaglioni alla valdostana.
Annuccio piace bagna.
Come buona, gustosa e sana, sta cucina tutta italiana.
Annuccio piace bagna.
E per chiudere un Gesù, mi scordavo proprio la U.
A Nuccio piace mangia. A Nuccio piace. A Nuccio piace. A Nuccio piace mangia. A Nuccio piace. A Nuccio piace. A Nuccio piace mangia. A Nuccio piace. A Nuccio piace.
Sympa cette chanson de Renzo Arboy. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir comme invité Alessandra Pierini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Voilà, donc on a déjà l'eau à la bouche. Et alors, vous êtes auteur de livres sur la cuisine italienne, chef d'entreprise, journaliste à France Inter, né à Gênes et vivant à Paris, experte en gastronomie italienne. Récemment, vous avez écrit donc un livre sur les pâtes, 10 façons de les préparer, qu'on peut retrouver à la FNAC, mais ça on en parlera avec notre ami Fabrice Massera, et puis aussi également Artusi, la science en cuisine et l'art de bien manger, qui est considéré comme la bible de la cuisine italienne. Bonjour Fabrice Massera, qui est avec nous aussi.
Buongiorno, voilà, et buona domenica.
Voilà. Merci d'être avec nous ce matin, parce que c'est vrai que la cuisine italienne, c'est quelque chose qui est maintenant mondialement connu. Il y a 30 ans, quand on a commencé cette émission, c'était voilà, on parlait pas de produits italiens. C'était très difficile à trouver. Des restaurants italiens, il y en avait très peu. Des pizzerias comme ça, mais vraiment sans plus, quoi. Et là, maintenant, c'est un boom extraordinaire. Est-ce que c'est presque pas trop?
Ben, c'est jamais trop, hein, quand on parle de cucina italiana. Il faut absolument, c'est une gastronomie vraiment qu'elle mérite de voyager, d'être connue partout. Et puis, bon, c'est vrai qu'en France, on en parle vraiment énormément depuis une bonne trentaine d'années. D'ailleurs, quand je suis arrivée il y a plus de 35 ans, j'avais un petit peu de mal, en fait, à trouver des excellents produits comme on trouve beaucoup plus facilement aujourd'hui. Mais la cuisine italienne, déjà par sa caractéristique de simplicité, d'universalité, du fait aussi d'utiliser vraiment des produits qu'on peut trouver vraiment partout, elle a une base de farine et d'eau, donc c'est une cuisine surtout de pasta, de pâtes, qu'on peut imaginer de pétrir et faire partout dans le monde. C'est pour ça qu'elle a voyagé d'abord dans les valises des émigrés. Elle est allée au-delà de l'océan pour revenir chez nous et être connue aussi davantage.
Voilà, je vous piquais un petit peu. C'était fait un peu fait exprès parce qu'en fait, on a peut-être un peu peur aussi qu'elle soit un peu dévoyée. C'est-à-dire que voilà, les gens se disent « Oh ben moi, je fais de la cuisine italienne, etc. » Mais en réalité, c'est parce que c'est un petit peu à la mode et ça marche bien. Alors, on en profite un petit peu aussi de ce système-là.
Oui, oui, oui. Ça, c'est un peu malheureux. Mais bien sûr, il y a des personnes qui sont là aussi pour garder tout ça. Des Italiens qui témoignent vraiment des recettes qui seraient, disons, un peu plus traditionnelles. Mais en même temps, il y a des actrices des années 50 italiennes qui disaient... Pour vous qu'on parle de moi, même si on en parle mal, mais au moins on en parle.
Oui, bon,
disons que ça donnait aussi, ça contribuait aussi un peu à des dérives parfois de la cuisine italienne, parce que plus on s'éloigne du pays d'origine, plus la voie est libre, donc toutes les interprétations.
Oui, des pizzas à l'ananas par exemple, hein, on a déjà vu sur Internet des choses...
Oui,
très,
oui,
très,
oui.
Très
la Wayenne, la pizza Wayenne.
Ah, oui. Mais si on creuse bien, elle a une raison, elle aussi. Hein.
Elle vient du Canada, je crois.
du Canada, oui, mais en fait, c'était l'époque où on commençait à mettre en boîte tous les fruits exotiques. Hein. C'était l'ananas en boîte quand il est arrivé en Italie dans les premiers supermarchés. Bah, tout le monde a vu donc cet ingrédient, a voulu aussi l'utiliser. Et on faisait aussi en Italie des fusilli à l'ananas, ouais. qui était un peu bizarre pour nous aujourd'hui. Mais voilà, parfois, c'est l'évolution en fait qui veut ça un petit peu ouais. La globalisation et le fait des échanges aussi. Toutes nos recettes sont en fait le résultat d'échanges à un moment donné d'autres peuples, d'autres civilisations, d'autres cultures.
Oui, les Italiens, alors quand on les voit ça, ils disent « Oh non, non, mais vous êtes fous là ou quoi ?» Mais c'est vrai que ça bouge, hein, la cuisine bouge, c'est comme les
bien
langues.
Sûr,
hein,
bien
ça
sûr.
Bouge. Alors vous avez un parcours qui est assez étonnant, vous partez de Gênes, vous allez vers Marseille, vous remontez à Paris, enfin c'est tout un périple. Ça vous a permis aussi peut-être de voir des cuisines un peu différentes et de pouvoir, vous, quand vous avez ouvert votre resto, de dire « Tiens, ça serait sympa de mettre des petites choses de Marseille ou de Gênes ».
Ben oui, effectivement, je suis née à Gênes, donc j'ai vécu jusqu'à l'âge de 21 ans quand je suis partie pour aller arriver dans le sud de la France. Et donc, en fait, c'est drôle, mais quand j'ai ouvert mon épicerie en 1992 à Marseille, donc la première épicerie que j'ai eue à Marseille, c'est en fait là que j'ai connu le plus toutes les autres cuisines italiennes. Par sa typicité, donc la cucina italienne, elle est vraiment très régionale, avec des identités très marquées, malgré que maintenant on est à 200 ans presque de l'unité de l'Italie. Mais quand je suis arrivée à Marseille, en fait, j'ai rencontré les Italiens de deuxième génération. Donc, je me suis frottée à une cuisine italienne qui était plutôt juste de l'après-guerre. Quand les personnes donc avaient décidé de quitter l'Italie, allaient s'installer ailleurs pour faire fortune. Et peut-être pour porter aussi un morceau d'Italie, un petit peu de cuisine. Donc, à Marseille, il y avait énormément de personnes du sud de l'Italie. Et comme on sait, comme nous en Italie, il y a beaucoup de différences dans les cuisines. Pas forcément en génois, cuisine très souvent ce qu'on fait, les spécialités calabraises, napolitaines, siciliennes ou sardes. Et donc, c'est à Marseille que je rencontrais, donc dans ma boutique, tous ces Italiens qui, à tour de rôle, me donnaient leurs recettes.
Et les produits.
Et les produits aussi.
Terroir,
et, donc, ouais. Et surtout une cuisine qui était un peu figée dans les années 50, alors que moi, je connaissais la cuisine italienne qui avait déjà évolué. Donc, c'est pour ça que ça m'a vachement intéressée. Et ça m'a permis aussi d'aller un petit peu plus loin, de vouloir connaître cette grande variété de nos terroirs.
Alors, on va faire une pause musicale. C'est vous qui avez choisi les chansons, par la première. Et là, évidemment, on commence par Paolo Conte, Genova per noi. Perché?
Perché? Parce que Paolo Conte, il est piémontais du sud de l'Italie. Il a un regard de Gênes, de toutes les personnes qui ne sont pas vraiment génois, mais qui arrivent dans la ville, qui viennent de l'introterre, hein, de l'arrière des terres, et arrivent dans un endroit au bord de mer magnifique avec le soleil, dans cette Gênes un petit peu renfermée, un petit peu difficile, mais pour ceux qui la connaissent bien et qui ont envie de la découvrir, extraordinaire.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Mm-hmm.
quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi, solo un sogno e il sole e un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ratarata, taratata, ratatarata, taratata.
Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
Voilà, et c'est vrai qu'on est dans Cappuccino et le téléphone 01 40 24 29 29 avec Alessandra Pierini qui nous met l'eau à la bouche et on est content parce qu'elle nous parle de son parcours qui est vraiment un parcours très sympa. On part de Gênes, on va à Marseille et hop, on arrive à Paris. Pourquoi tous ces changements de vie, c'est la vie, c'est bon, j'ai envie fait, de bon, voir autre chose.
C'est vraiment la vie qui a voulu ça. En général, je suis quelqu'un de très casanier, qui aime pas forcément énormément bouger, mais il y a eu par moments, voilà quoi. J'ai vécu beaucoup d'années à Marseille. Et en 2010, par un concours de circonstances, j'ai vendu mon commerce, mon épicerie avec le restaurant, et donc je dis je vais aller à Paris. S'il y a une autre ville en France où j'aimerais habiter, à part le sud, bien sûr, où il y a beaucoup de soleil, et c'est Paris. Paris, c'est une ville extraordinaire, donc il y a énormément de choses à découvrir. Je voulais voir si j'étais capable aussi d'implanter un peu ma cuisine italienne et ma vision de la cuisine italienne aussi auprès des Parisiens, et voir si tous ces produits que j'aimais aller chercher, aller découvrir, pouvait aussi être bien accueilli autant qu'il avait été bien accueilli à Marseille.
Il y a une différence entre Marseille et Paris par rapport au goût, par rapport aux habitudes, par rapport...
Énorme. À Paris, tout énorme. Va très vite. Mais quand je suis arrivée à Paris en 2010, je pensais venir vraiment dans une métropole où il y avait énormément de produits italiens vraiment plus récents. Alors que non, pas forcément. Je pensais trouver déjà la burrata, alors qu'en 2010, la burrata n'était pas encore très, très parisienne. Donc, j'ai dû revenir un peu sur mes croyances que j'avais et donc faire comme si rien n'était, faire mon petit trou et la petite épicerie et continuer le travail, en fait, de découverte et d'échange que j'avais beaucoup avec les clients, avec beaucoup de fournisseurs et de surtout d'artisans, de producteurs italiens qui venaient très souvent dans ma boutique pour présenter leurs produits avec les clients. Et ça a été, c'était les moments que je préférais, en fait.
Donc là, vous allez développer votre cuisine. Donc c'est Rap, le restaurant s'appelait...
Allez, à Paris, ça s'appelait Rap, le restaurant, et Rap, l'épicerie.
Voilà. Il y avait Ristorante Alessandra Pierini.
Tout à fait, c'était la
cuisine. Et donc, vous allez vraiment développer votre cuisine, parce qu'à Marseille, c'était plutôt une tavola calda, c'était plutôt le midi,
tout
c'est
à
ça
fait. C'était une restauration de midi. En fait, à Marseille, c'était un peu un besoin qui s'était présenté parce que comme je proposais des produits dans mon épicerie qui étaient vraiment différents, difficile à trouver ailleurs. C'était assez innovant pour un public français. Il fallait d'abord les appréhender, peut-être les goûter, les apprécier éprouver. Pour éventuellement après acheter vraiment le produit pour le cuisiner soi-même à la maison. Donc le principe, c'était dans la tavola calda de te faire déguster ce que je proposais à la vente dans l'épicerie. Vraiment, c'était à l'époque ce que maintenant on a pris un concept, mais il n'y avait pas de concept vraiment. C'était un besoin en fait de pouvoir.
Donc expliquer. Vous vous lancez dans le grand bain à Paris avec ce restaurant, voilà. Donc qu'est-ce que vous retenez de cette expérience puisque ça devait être quand même.
C'était super. Hein. Le restaurant, c'était vraiment un véritable restaurant de midi et du soir. Donc on faisait une cuisine italienne assez personnelle. Hein. Donc il y avait beaucoup de recettes génoises selon les saisons, beaucoup de recettes plutôt vraiment régionales. Et donc c'était très intense. C'est un restaurant qui marchait. J'avais la chance, ça marchait très bien. On avait beaucoup de gourmets parisiens, mais aussi beaucoup d'Italiens. Donc j'étais très contente. Mais au bout de trois à quatre ans, en fait, j'ai cédé mon restaurant parce que il me prenait trop de temps. Donc, ce que j'ai vraiment aimé faire et ce qui était un petit peu ma mission, je sentais ma mission de vie, c'était celle d'aller vraiment dénicher sur place, sur le terrain, les produits, d'avoir un vrai échange avec les producteurs. Et la vie de restaurant ne permettait pas tout ça. Et donc, il a fallu que je me sépare du restaurant pour me concentrer vraiment sur la vie d'épicière.
Et donc, vous avez encore déménagé.
Oui, parce que.
Pour la grande épicerie Rapp.
C'est ça.
À Notre-Dame-de-Lorette.
Qui n'était pas très grande en volume, en fait, en mètre carré, mais c'était en fait un nombre de produits qui était assez extraordinaire. Hein. J'ai comme ça, c'est un petit peu une manie qui me poursuit dans la vie. J'aime les petits endroits bien remplis, un peu comme les maisons, des petits nids, mais avec plein de choses. Et donc, voilà, ça a été, on a déménagé de la rue Rodier à 300 mètres, hein, tout simplement.
Oui, c'est vrai que c'est pas loin.
Au pied de la rue des Martyrs, dans le 9e, c'était la rue Fléchier. Et donc, ça a été, voilà, Rapp, l'épicerie à cet endroit entre 2010 et l'épicerie, je l'ai gardée jusqu'à fin 2022.
Ouais, donc une belle période sur l'épicerie et donc aussi pas mal une bonne part aux produits génois quand même. Surtout.
Bah oui, bien sûr, avec du bon pesto, surtout du pesto frais qu'on recevait chaque semaine, et puis les trofies, les crosetti et tout, vraiment les produits du terroir, comme tous les légumes qui étaient produits surtout dans la région de Imperia, au-dessus d'Imperia, oui, dans la Vallée Crozia.
Donc on peut dire que le pesto, c'est vraiment le symbole de la cuisine génoise.
Absolument, de plus en plus d'ailleurs.
Et donc vous avez énormément contribué à le faire connaître sur Paris et en France, notamment avec l'organisation du championnat du monde de pesto. Et donc cette fameuse recette, la fameuse recette du pesto, parce que c'est un basilic spécial hein, pour faire le pesto, le basilic de Prat, le basilic genovese d'Op.
Absolument, oui, qui est cultivé donc toujours sous serre, hein, pratiquement toute l'année, à une température constante. Et dans le typique, vraiment, c'est juste à la sortie de Gênes, vers la petite ville de Prat. Et c'est ça, donc, l'appellation d'origine protégée. Et c'est un basilic bien particulier. Donc, il y a plus de 40 variétés de basilic comestibles, et dont le basilic genovese, c'est le seul qui n'est pas la molécule de la menthe. Donc, ce goût un peu mentholé, qu'on apprécie beaucoup, surtout dans le basilic napoletano, par exemple, pour la pumarola, hein, pour les sauces à base de tomates. Voilà, c'est pas la caractéristique qu'on doit avoir, par contre, dans le véritable pesto genovese ou le basilic. Donc, est ramassé vraiment quand il fait au maximum 10 cm, donc les petites feuilles de verre.
Très concentrées, très petites.
Petites, mais surtout très, très tendres, pas filandreuses, pas trop, trop végétales, mais extrêmement parfumé, mélangé bien sûr à 6 autres ingrédients très savants.
Pecorino sardo, parmesan.
Parmigiano reggiano, pinol.
Pinol,
et donc le sel, fleur de sel de Trapani, l'huile d'olive de Ligurie et l'ail de Vessalico, qui est aussi donc une sentinelle slow food et qui est cultivée pas loin d'Imperia.
Voilà, donc ça c'est la recette officielle vraiment pour le championnat du monde. Mais vous l'aimez comment, toi Michel, le pesto, avec quel type de pâte? Ah, avec parce qu'il y a évidemment les trophées à Gênes, mais elles sont vraiment variées. Qu'on le faisait avec des linguines, bon, avec les gnocchis.
Tout à fait, oui.
Les même avec des pâtes aux châtaignes. Ouais. J'étais étonné de ça.
Tout à fait. Dans l'arrière-pays génois, on utilise beaucoup de farine de châtaigne. En fait, c'est une cucina povera. Donc, le blé, souvent, il n'y en avait pas beaucoup. On le vendait. Et donc, pour laisser la place à la farine de châtaigne, surtout pendant l'hiver. Et puis bon, elle se garde toute l'année pour faire des pâtes, des gnocchis aussi.
Alors là, on va revenir à Gênes avec Fabrizio De André, avec la chanson « Volta la carta ». Perché?
Volta la carta, c'est une des chansons de Fabrizio De André qui n'est pas très connue comme les autres. Et puis, il y a deux raisons. Volta la carta, c'est une chanson contre la guerre. Et puis, j'adore les chansons. C'est un petit peu maintenant une passion, enfin, d'aller chercher, quand on parle même juste d'un produit dans les chansons, comme dans Volta la carta. Et puis, j'ai un ami génois en chef qui, en honneur de cette chanson, a appelé son restaurant qui a depuis 20 ans Volta la carta. Et donc, comme c'est un restaurant typique, traditionnel que j'adore, donc un chef, Maurizio Pinto, que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette chanson.
Donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Oh! Bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori, volta la carta c'è il fante di cuori con fuoco di paglia, volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle sei di mattina si intrecci i capelli con foglie d'ortica, ha una collana di ossi di pesca, la gira tre volte intorno alle dita, ha una collana di ossi di pesca, la conta tre volte in mezzo alle dita. Oh! Madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele, mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more, ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore, ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Oh! Madama Dore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria, chiama i ricordi col loro nome. Volta la carta e finisce in gloria, chiama i ricordi col loro nome. Volta la carta e finisce in gloria. Oh!
Cappuccino la domenica mattina? Subito, presto, fortissimo o pianissimo.
Voilà, non, c'est rigolo parce que on voyait Enrico Mastro Giovanni qui en fait écoute avec attention vos paroles, parce que lui aussi est italien, et il rigolait, on en parlait en antenne, parce qu'il disait, c'est très rigolo, c'est tout à fait italien ça, parce que par exemple, on parle de basilic, et on dit, ouais, à Gênes, c'est le meilleur basilic, mais finalement, à Naples aussi, il y a du basilic, et puis finalement, il y a peut-être 42 sortes de basilic en Bien Italie, sûr. Et c'est un truc que ça, les Français peuvent peut-être pas comprendre, cette espèce comme ça de régionalisme qui est important, puisque ça fait aussi qu'on a une cuisine qui est maintenant répandue dans le monde entier. Alors, juste vous parliez d'une chose, c'est que vous disiez la cuisine pauvre, enfin les aliments qu'on mangeait quand on n'était pas très riche, comme la polenta, etc., et que maintenant c'est devenu des choses plutôt caroucho, non? Et aussi, est-ce qu'il n'y a pas justement un dévoiement aussi avec ça, c'est-à-dire que tout ce qui était finalement assez bon marché, on va dire, hein, les fameux piatti tipiques des trattorie, les fameuses trattorie. Maintenant, on en profite un peu et maintenant, ça devient des prix quand on boit un spaghetti 15 euros. Bon, là, pas
15 euros, c'est encore
c'est
bien.
Pas trop cher.
Donc, voilà, oui,
c'est plutôt 20-25.
Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un excès là quand même? Parce que qu'est-ce que c'est des pâtes, c'est bien sûr, il y a du savoir-faire, etc. Mais la cuisine italienne, c'est quand même une cuisine justement pour tout le monde.
Ouais. Casaling, mais justement, si, il faut la faire à la maison. Casaling, c'est moins cher.
Tout à fait. Après, la cuisine italienne, c'est devenu maintenant vraiment une vraie cuisine de restaurant où il y a aussi des très grands chefs étrangers qui se sont emparés de ça et qui utilisent régulièrement des ingrédients italiens dans leur cuisine, donc qui n'a pas de la bonne huile d'olive, du vinaigre balsamique et surtout nos très très bonnes pâtes aussi. Justement, si on la fait à la cucina casalinga, si on la fait chez soi, c'est autre chose. Quand ça devient une cuisine de restaurant, bon, il y a des coûts à Paris qui ne sont pas les mêmes que peut-être dans d'autres petites villes en Italie. Et c'est tout simplement aussi parce que la cuisine italienne à manger à l'étranger, ça fait exotique quelque part. Hein. Donc c'est une spécialité et on va manger une spécialité
et,
donc, qui et, a et un certain coût.
On met 30% de plus sur l'addition, quoi, en gros, hein, parce que c'est exotique.
Oui,
quoi,
bah oui, après, c'est vrai que c'est difficile. Hein, c'est pour ne pas rentrer dans des vraies polémiques, il faudrait vraiment analyser chaque situation hein, parce qu'il y a des ingrédients qui sont très difficiles à trouver sur Paris. Hein, je pense aux difficultés aussi de s'approvisionner. Et aussi, maintenant, on trouve très facilement des légumes, mais le légume, ça a un coût du moment que Ça voyage, il faut que ça soit vendu dans de bonnes conditions et très très rapidement. Et donc, bien sûr, tout ça...
D'où l'intérêt aussi de la cuisine italienne, qui est une cuisine familiale, locale. Et donc, on retrouve aussi ce côté local de manger ce qui approche de chez nous. Et c'est vrai que du coup, on l'a perdu justement, on parlait dans les années 80 avec les conserves, l'ananas, tout bien ça. Sûr. Mais c'est vrai qu'il faut aussi revenir à cette proximité des produits et puis le fait maison aussi pour pouvoir manger aussi. On s'est un peu perdu, c'est vrai, dans les transports. C'est vrai que quand on va au restaurant, on n'achète pas. Évidemment, ça nous choque parce qu'une assiette de spaghetti, on la fait chez soi. Mais dans l'assiette de spaghetti, il y a le loyer, il y a les charges, il y a tout ça. Il y a l'inflation maintenant qui rajoute. Sûr. Et c'est vrai que bon, c'est une équation un peu compliquée parfois.
Non, mais c'est aussi une question... Voilà. Vous qui avez justement une épicerie, on sait très bien que quand on va dans une épicerie italienne à Paris, c'est quand même relativement cher. Alors, mais il y a sûrement une raison derrière. Pourquoi, par rapport à l'Italie, c'est le triple de ce qu'on trouve en Italie?
Oui, tout simplement parce que bon, déjà, c'est une question juste de transport. Et puis, c'est difficile d'avoir des produits directement du producteur. Si on les a directement du producteur, pour le savoir, on est obligé de faire des quantités très importantes, donc de les stocker. Et donc, le transport a vraiment un coût, ça incide énormément. Et sinon, il faut s'appuyer sur des intermédiaires. Et donc, il y a le coût du producteur, ensuite de l'intermédiaire, du transport et après du commerçant qui doit ensuite le mettre à la vente. Donc, il y a des différents acteurs du système. Il faut essayer que ça soit le plus fluide possible et le plus direct possible de façon... et essayer d'économiser surtout sur les étapes. Mais bon, c'est un peu, ça devient un petit peu un luxe, bien sûr, de pouvoir manger des produits italiens ailleurs.
Et justement, comment on pourrait revenir à une, peut-être une, à des produits plus simples, parce qu'on sait qu'en ce moment, en plus, les gens ont des difficultés, c'est l'inflation. Bon, voilà, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'on va pas aller vers cette tendance-là, à revenir à des plats plus simples, moins élaborés, peut-être?
Bah, de toute façon, par exemple, on parle de pâtes. Les ouais. pâtes, très, très facilement, on peut les faire chez soi. Hein. C'est les pâtes fraîches. Ça en coûte un kilo de bonne farine. Ça peut coûter entre, même si exceptionnel, entre 2,50 € et 5 ou 6 €. Donc, on sait bien qu'avec un kilo de farine, il y a plus de 12 personnes qui peuvent manger. Donc, c'est quand même bien. Donc, il faut revenir de toute façon, plus on cuisine maison, mieux c'est. Et puis, de toute façon, utiliser aussi des produits locaux. Hein. En Île-de-France, nous sommes ici à Paris, il y a énormément de producteurs. Et il y a aussi, maintenant, on trouve des puntarelles qu'avant, on faisait venir du sud de l'Italie. Maintenant, il y a des puntarelles.
Les
puntarelles, c'est une chicorée. Hein. Ça fait partie de la famille des salades amères et c'est une sorte un peu de chicorée avec des longues feuilles, avec un cœur, avec des tiges un petit peu conséquentes, un peu comme des asperges qu'on coupe, donc des pointes qu'on coupe très très fin et on assaisonne en salade avec huile d'olive, du vinaigre, sel et poivre en choix surtout et de l'ail. Donc c'est une spécialité romaine, hein, la puntarella romana.
Bionde trecce gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano. E le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventar quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce e il bianco a fondo? Di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. Trasparente come me. Oh mare nero, mare nero. Tu eri chiaro e trasparente come me. Abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano. Del fiore dalla bocca e poi, oh no, fermati prego la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dir sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai, non so chi sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo. Ma ti ricordi le onde grandi e noi, gli spruzzi e le tue risa? Trasparente come me.
Rappelle aussi que vous faites des rubriques sur France Inter et vous donnez justement toutes ces explications très pointues sur les produits italiens. C'est un dimanche sur deux, dites-nous un peu.
Moi, je suis assez... Enfin, l'émission a lieu tous les dimanches à 11h. Hein. C'est On va déguster, donc sur France Inter. Et c'est l'émission de François-Régis Gaudry. Et moi, j'interviens, ça dépend, hein, assez régulièrement. Ça peut être une fois par mois, ou parfois un peu plus souvent, s'il y a des thèmes bien spécifiques qui me concernent. Mmh. C'est surtout sur la cuisine italienne, mais bon, en général, j'aime tous les bons produits, donc... On peut parler aussi d'autre chose.
Et on peut aussi donc réécouter tous ces podcasts sur le site de France Inter.
Tout à fait.
Et,
oui.
Et c'est très 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 intéressant. Bon, moi j'ai écouté le brocoli. Hein. On apprend des choses incroyables sur le brocoli, que ça vient de l'Amérique. Enfin, le nom avec les émigrés, etc.
Ah, donc, brocoli, non c'est Brooklyn. Brooklyn, c'est, voilà. C'est, ça a donné ça, le nom.
Les brocolis. Question basique, mais bon, peut-être qu'ils peuvent intéresser nos auditeurs.
Bien sûr.
Comment on peut essayer de voir si il y a un restaurant italien qui est sympa? Est-ce qu'il y a des petits trucs comme ça qui nous permettent de voir si, ah tiens, celui-là oui, mais celui-là non, parce qu'il y a un truc qui n'est pas très...
Bah, déjà, juste en regardant la vitrine, enfin la devanture et la carte. Quand vous commencez à regarder la carte, vous avez 150 plats dessus et dont la moitié, il y a des erreurs d'orthographe dans l'énoncé. Donc là, avec des doubles T partout, des doubles L partout, donc on va éviter ça. On imagine que ce sont des vrais Italiens qui font attention... à ce qu'ils proposent dans l'assiette, ils font aussi très attention à ce qu'ils écrivent sur la carte, surtout que maintenant, même pour des Français, hein, c'est très facile d'aller vérifier tel et tel nom de produit et ne pas faire des erreurs grossières. Donc déjà ça sur la carte, on le voit tout de suite. Et puis surtout encore, quand il y a beaucoup de pâtes, je me dis toujours à base de saumon et de crème. Bon, ça, ce sont des plats qu'un Italien n'irait pas forcément manger ça au restaurant. On cuisine plus ça chez nous. Ça a été à un moment donné de notre vie gastronomique. Mais voilà, c'est ça. Et puis dans les restaurants, par exemple, au décor excessivement kitsch, où en fait, ils mettent l'ensemble de tous les stéréotypes italiens qui puissent exister. Vespe, c'est ça, oui. La côte amalfitaine, toutes les actrices des années 50 avec leur décolleté, Toto qui mange les spaghetti, Pinocchio, enfin tout ça accroché, enfin nous on ferait pas ça quoi.
Ouais. Donc ça c'est
donc,
déjà un signe
quand
aussi
c'est un peu excessif, oui oui, parce qu'il y a ce kitsch italien parfois qui est un peu démodé mais qui est marrant mais.
Alors toujours. Justement, est-ce que vous pourriez nous conseiller à nos auditeurs, à, par exemple, un restaurant à Paris de où on mange des bonnes pâtes, vraiment,
des
pâtes à la ragout, quelque chose de verace et d'authentique.
Franchement, Yann, maintenant, on peut vraiment manger italien à Paris très très bien et dans tous les arrondissements. Après, ça dépend un petit peu de quel restaurant. Si on veut plutôt un restaurant gastronomique plus haut de gamme, il y a le restaurant de Nico Romito, que j'adore,
avec Georges V.
Mais vous avez aussi au même niveau Passerini, son restaurant dans le 11e. Le Café Esterne, au passage des Panoramas, dans le 2e. Vous avez Massimo Mori aussi, avec le Mori Venice Bar, avec des spécialités vénitiennes, un décor somptueux, donc de très très bons produits. Après, on a des adresses un peu plus de bistrot, comme Anna Bistro, qui est dans le 3e. Vous avez Il Localino dans le 5e. Vous avez l'Osteria Ferrara dans le 11e. Il y a Simone Tondo avec Racine aussi dans le passage des Panoramas. Il Vicolo avec Eleonora Zuliani avec une cuisine donc plus régionale. Maintenant, c'est ça qui est intéressant, plus du côté du Frioul. Ristorantino Chardana avec des spécialités sardes.
Ouais.
Tempi Lenti dans le 15e. Enfin, franchement, sûrement j'en ai oublié.
Une pizzeria, on appuie sur le bouton et ça...
Bon, il y en a beaucoup aussi. Moi, j'aime bien la pizza napolitaine. Donc, il y en a une dans les Fratelli Castellano dans le 15e. Il y a Guillaume Grasso dans le 15e. Mais il y a aussi Fimina dans le 9e, juste en bas de chez moi. C'est une petite pizzeria. Lui, il est Davide, il est sicilien, tout à fait. Il fait des pizzas napolitaines qu'il maîtrise très, très bien. Vraiment exceptionnel. Mais il y a aussi un pastificio qui fait des pâtes fraîches exceptionnelles. Et c'est Oronza Pastificio que j'aime beaucoup. Où on peut manger, manger sur place des pâtes qu'eux produisent tous les jours. Et on peut aussi emporter des raviolis vraiment excellents.
Alors, une question aussi sur ces chaînes qui se développent de plus en plus à Paris. C'est des chaînes où on mange à peu près pareil dans tous ces restaurants. Qu'est-ce que vous en pensez de ces chaînes-là? Soi-disant italien, souvent des serveurs d'ailleurs italiens.
Ah, tout à fait, tout à fait. De toute façon, ça a contribué à faire connaître davantage, encore plus, la cuisine italienne. De toute façon, après, il faut faire un peu attention quand ça commence à devenir très grand, on perd un petit peu le contrôle de la situation, dans le sens que. On fait plus vraiment dans l'artisanat, mais ça fait partie aussi. Il y a beaucoup, un grand public qui se rend dans ces restaurants, donc il faut les prendre en considération.
Bah, Big Mama,
ça veut dire
Big Mama, c'est sympa comme chaîne.
Oui, bien sûr. Et puis il y a des gens qui viennent de partout pour aller manger chez eux, et c'est grâce à eux aussi qu'on a sûrement.
Mais ils ont fait un gros travail aussi de sourcing comme on dit, d'aller chercher les voilà. Et ce n'est pas toujours le cas évidemment dans ce genre de chaîne.
Alors, on va passer encore une chanson que vous avez choisie, Alessandro Manarino, Mi sono imbriacato. Oui, tiens, on n'a pas parlé du vin italien aussi, c'est important.
Oui.
Et cette chanson aussi, c'est quelque chose qui
me déjà, par le titre, Mi sono imbriacato, c'est rigolo, quoi. Et puis, lui aussi, il parle un petit peu de la cuisine dans sa chanson. Et puis, elle est rigolote, facile à vivre. C'est une vie un peu spensierata. C'est un peu les chansons italiennes qu'on a envie d'écouter avec un ritornello qui nous revient facilement dans les oreilles.
Sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me so
Imbriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ce vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'ombra.
Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sombriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'ombra.
Canzonette simpatica.
Carina, voilà. No?
Carina, simpatica. Nous sommes avec Alessandra Pierini qui nous parle de cuisine. Et on a presque faim, Fabrice, non?
Ah ben, plus que presque.
Donc normalement, il faut, pour faire de la cuisine, il te faut un livre, un livre
intéressant. Ben voilà, donc il y a le livre référence pour toutes les familles italiennes. Donc que Alessandra avec Stéphane Solier, vous avez traduit et commenté, c'est ça votre grand apport au livre, c'est la bible vraiment de la cuisine familiale italienne. La cuisine, c'est avant tout de la culture, de l'art et de l'histoire, et là on est vraiment là-dedans. C'est la langue, toi qui es toscan, la langue toscane, la langue de Pétrarque, de Boccace, et qu'on retrouve, et justement les commentaires nous aident beaucoup, parce que c'est un livre qui date de Alessandra.
C'est la première édition de 1891. Donc,
voilà, 1891. Mais il faut dire, je vous coupe, mais c'est vrai que c'est un livre très accessible. Les recettes, des fois, elles tiennent en quelques phrases. Donc, c'est pas du tout un livre de haute gastronomie, laboratoire, etc. C'est un livre très accessible pour tout le monde. Toutes les recettes sont numérotées. Il y en a 800. Chantal a déjà épluché largement le livre. Donc, quel a été votre... qu'est-ce que vous avez souhaité apporter à cette traduction et ces commentaires de Pellegrino Artusi?
Déjà, la science en cuisine est l'art de bien manger. Hein, donc le titre véritable, on l'appelle l'Artusi, parce que c'est Pellegrino Artusi qui l'a écrit. Et donc ça prend, un peu comme l'Escoffier en France, le nom de l'auteur, tellement il a de l'importance. Bah, on a voulu, déjà c'était un livre qu'il fallait absolument qu'il rentre sur les étagères de tous les Français, parce qu'ils sont tellement proches de la cuisine italienne, ils aiment beaucoup cuisiner, ils la connaissent vraiment très très bien. Donc c'était important aussi qu'ils connaissent l'œuvre en fait de base de celle qui est en fait la cuisine familiale italienne, la cuisine qui a été presque unifiée donc à la fin du 19e siècle par Pellegrino Artusi, qui, à l'âge de 70 ans déjà, il a décidé de créer ce livre qui n'est pas uniquement justement, comme vous disiez Fabrice, un livre de recettes, mais c'est aussi un livre écrit pour la première fois en langue italienne, donc une unification par la langue, et un livre qui est de cuisine qui est adressé vraiment à la ménagère, aux familles. Jusque-là, en Italie, il n'existait que des livres de cuisine régionale, très professionnels, écrits donc selon les régions dans un dialecte, souvent sans proportion, souvent sans aucune explication. Donc, il n'était pas du tout accessible par les familles. Donc, les ménagères de l'époque pouvaient donc, ils ont découvert dans ce livre donc un compagnon. Quelque part, hein, parce qu'elles étaient plus seules dans leur cuisine, mais ils avaient donc un support très important donc, pour pouvoir cuisiner. Et en même temps, elles découvraient des recettes qui n'étaient pas leurs recettes traditionnelles de leur région, mais celles d'autres régions italiennes que Artusi a bien voulu mettre donc dans, dans ce manuel, parce qu'il avait quand même pas mal voyagé, hein, même s'il n'était pas vraiment allé partout. À l'époque, c'était pas aussi simple. On commençait à peine à avoir donc des voies, des trains. Donc, on se déplaçait en calèche. Les routes italiennes n'étaient pas aussi accessibles. Et surtout, on parlait aussi de produits qui n'étaient pas, qui venaient un petit peu de partout. Donc,
On l'a surnommé d'ailleurs le Garibaldi de la cuisine, parce qu'il a unifié aussi la cuisine italienne. Donc les recettes sont classées avec les brodo, la pasta, tout ça. Alors notamment, il y a une recette pour toi, Michel, les pappardelle à la façon d'Arezzo, à l'arettina, au ragoût de canard. Apparemment, il y a beaucoup, il y a du canard là-bas
vrai.
Chez toi.
Ouais,
c'est vrai.
Pappardelle.
Voilà. Donc toutes les recettes sont numérotées. Par exemple, celle-là, vous la retrouvez au numéro 91. Donc c'est très facile à se retrouver. Et donc, on pioche comme ça. Évidemment, on ne va pas le lire d'un coup. On pioche, on Bien picore, sûr. Comme on dit maintenant dans l'édition française. On va picorer. C'est un livre qu'on peut facilement picorer.
Comment on fait pour se le procurer?
Ah ben, c'est un livre qui se trouve
partout. Largement,
hein,
diffusé.
Largement diffusé
dans les librairies.
C'est aux éditions de l'Épure, donc à la maison d'édition pour laquelle j'écris depuis très longtemps. Et donc, voilà, vous pouvez trouver aussi bien les recettes dans ce livre, toutes nos explications et commentaires, hein, qui est ce qui rendent accessible, en fait, le texte.
Juste une question bien un sûr. Petit peu étonnante, parce que j'ai vu que maintenant, il y a des mamas en Italie qui font des vidéos sur comment faire...
Même les nonnes.
Les nonnes.
Ah, c'est très répandu.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh, mais c'est génial.
Vous n'avez pas envie de faire ça, vous?
Bah,
ça vous est jamais...
Je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas super forte dans les vidéos. Je préfère écrire ou faire de la radio plutôt que les vidéos. Mais je regarde moi-même certaines vidéos qui sont super, bien sûr.
Alors, merci à vous parce que voilà, on est presque à la fin de cette émission. Mais je pense que peut-être on va collaborer ensemble. Qui sait, parce que le dimanche matin, c'est une émission où il doit y avoir de la cuisine. C'est normal, hein, puisque sur France Inter aussi, vous parlez cuisine. Redites-nous aussi alors où on peut vous écouter sur France Inter.
C'est l'émission On va déguster, donc qui passe tous les dimanches à 11h, l'émission de François-Régis Gaudry, donc sur France Inter. Moi, j'y suis régulièrement, de toute façon, sur les réseaux. Même moi, je communique beaucoup à travers Instagram. On peut voir tout ce qui se passe, toutes mes actualités assez facilement.
De toute façon, ça tombe bien, parce que Cappuccino s'arrête à 11h. Donc, on peut tout à fait
écouter après.
Écouter France Inter après.
Et à midi, écouter les bonnes choses sur France Culture.
Qui sont pas loin.
Pour terminer, tu avais aussi une information culturelle, Fabrice.
Oui, une petite actualité culturelle. C'est le 500e anniversaire cette année de la découverte de New York par le navigateur toscan. On trouve, mais lui, il est plutôt florentin. D'ailleurs, je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Un navigateur toscan florentin
Qui va bientôt
qui fait des transatlantiques, donc qui est parti d'ailleurs du Havre. Il s'appelle Jean de Verrazzano, Giovanni di Verrazzano. Donc, il est parti le 17 avril 1524. Il a découvert la baie d'Hudson, qu'il a baptisée Terre d'Angoulême en l'honneur de François Ier. Et donc, c'est ainsi que New York s'est appelée pendant 100 ans Angoulême, la nouvelle Angoulême. Et ensuite, ça s'est appelé la nouvelle Hollande, puis après New York. Donc, il y a énormément de festivités parce que c'est un chercheur d'une université à New York qui a découvert ça il y a quelques années, que c'était donc ce Florentin qui a découvert New York et qui a baptisé Angoulême, la baie de New York, la baie de Hudson et New York, Angoulême à l'époque. Et donc, il y a énormément de festivités, des expositions, des animations. Toutes les infos sur le site de la ville d'Angoulême, angoulême.fr. Voilà, les Angoumoisiens vous accueillent chaleureusement.
Merci à toi. Et on va terminer avec une chanson qu'a choisi aussi Alessandra, Max Gazé, La Vita Comme È. Et voilà, aussi sûrement parce que c'est très festive, hein, cette chanson.
Molto spensierata.
Se fossi qui dipenderei dalle tue tenerezze dette su un collo a bassa voce, ma lo sai, l'amore porta guai, si perde quasi sempre, c'è gente che facile non si riprende più, ma tu guarda me, prendo tutta la vita com'è, non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè, ammazzo il tempo provando con l'auto. Dal terribile ricordo che resta di te. Se fossi qui mi lascerei tentare dalle tue carezze, però ringrazio Dio che non ci sei. L'amore fa per noi, ma separatamente c'è gente che come me non si riprende mai, lo sai. Guarda te, questo straccio di vita cos'è? Non la faccio finita soltanto perché pronto un altro caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non avrò più addosso quel terribile. Com'è? Non la faccio finita, ma incrocio le dita e mi bevo un caffè. Ammazzo il tempo provando con l'automeditazione, canto un po' nella testa. E mi rilasso finché non avrò più addosso quel terribile ricordo rimasto di te. Indifferente che mente c'è l'eco.
Alessandra Perini qui nous a mis l'eau à la bouche, donc on va vite aller manger les spaghettis, non?
Ben oui, mais si. il faut mettre les mains à la pâte avant de manger.
Ça, c'est ça qui est compliqué pour nous les hommes, on
va dire. Ah oui, ça c'est compliqué, ça c'est sûr.
Toujours,
mais on va y arriver, quoi.
Alors on se revoit quand?
Mais dimanche prochain.
À quelle heure?
À partir de 8h.
À 8h, on
si tout va bien.
Allez, on salue tout le monde, et puis aussi Enrico Mastro Giovanni.
Grazie,
ciao à
Enrico,
tutti.
Grazie.
Grazie.
A tutti, buona domenica. Semana.